Seigneur, merci. Tu es notre récompense. Nous avons mis toute notre confiance en toi. Et nous savons que nous ne serons jamais déçus. Merci encore, Seigneur, pour ces moments bénis. Où tu nous fais du bien, Seigneur. Tu t'es approché de nous. Et tu nous as fait du bien. Et tous ensemble, Seigneur, avant de nous séparer, nous voulons te dire merci.
Amen.
Tu nous as fait du bien pendant tout ce week-end. Combien il était bon d'être avec toi. Car Seigneur, c'est autour de toi que nous sommes venus. Et tu ne nous as point déçus, Seigneur. Au contraire, nous partons remplis, heureux, paisibles, confiants, obéissants. Merci, Seigneur. Continue ton œuvre encore maintenant. Et enseigne-nous encore quelques paroles d'exhortation et d'encouragement pour notre bien et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Nous pouvons remercier le Seigneur de ce qu'il est merveilleux, n'est-ce pas vrai? Quand une dernière réunion arrive à une convention, il y a toujours une note de tristesse qui est là. On est content, mais on est triste aussi. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Quand on passe quelques jours ensemble, on se connaît mieux, on s'apprécie mieux, on se comprend mieux aussi. Et il est bon de se retrouver ainsi, comme cela. Pour toujours mieux se comprendre, mieux s'aimer, mieux discerner la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Au Seigneur soit toute la gloire encore. Il repartira avec chacun d'entre nous, n'est-ce pas vrai? Il est celui qui est ressuscité et il a dit, voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il sera auprès de chacun. N'en doutons pas. Juste quelques paroles. Je ne serai pas trop long maintenant, puisque le temps est court. Mais un court message sur une pensée précise, une vérité biblique qui est la persévérance. Et le titre de mon message sera « Pas de maturité spirituelle sans persévérance ». Pas de maturité spirituelle sans persévérance. Et j'ai noté cinq points, cinq vérités importantes où le mot persévérance vient dans les Écritures. Il y a bien sûr beaucoup d'autres passages, on ne pourrait pas tout dire, mais en tout cas cinq que j'ai notés ici et qui vont nous aider justement à comprendre ce que Dieu veut nous dire pour que nous soyons vraiment persévérants. Et en persévérant, nous porterons des fruits et nous arriverons à la maturité. La maturité spirituelle ne peut se réaliser sans la persévérance. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas en un jour, en 15 jours, que Dieu d'un seul coup nous transforme à son image ou nous donne un ministère puissant. Il y en a qui voudraient tout ça tout de suite. Et il y en a même à qui on promet des ministères en 15 jours. Non. En 15 jours, il y a un champignon qui pousse, c'est tout. Et encore ça, je ne sais pas si ça met 15 jours. Mais pour qu'un chêne pousse, il faut combien de temps? Mais quand il a poussé, je vous assure que c'est inébranlable. Amen. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pousser tout de suite et être un champignon? Puis après qu'on ramasse, il n'y a plus rien du tout. Avec Dieu, les choses vont lentement, mais sûrement. Et c'est comme cela que nous irons loin. En étant trop pressés, on empêche Dieu d'agir dans notre vie. Combien de fois des choses ont avorté dans notre vie parce qu'on a trop précipité les choses. On a voulu devancer le temps de Dieu, n'est-ce pas vrai? Et en faisant cela, on fait tout avorter. Alors dans quel domaine? Vous devez persévérer, je dois persévérer pour grandir spirituellement. Le premier passage, il est dans les Actes, chapitre 2, verset 42. Un passage qui est bien connu. C'est la première persévérance dans laquelle le Seigneur demandait aux premiers chrétiens de s'engager. Acte 2, 42. Verset 41, il est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Ils persévéraient dans quoi? Et la première des choses, c'est quoi ici? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a là donc quatre persévérances. Mais la première est l'enseignement des apôtres. Car si nous ne persévérons pas dans l'enseignement des apôtres, toutes les autres persévérances, communion fraternelle, même sainte cène et prière, toutes ces choses seront vaines, stériles. Ça n'a aucun sens, la prière n'a aucun sens, on peut prier 107 ans, si cela n'est pas fondé sur les Écritures, n'est-ce pas vrai? On peut prendre même la sainte cène, mais si notre vie n'est pas une vie d'obéissance au Seigneur, tout ce que nous faisons est vain. Nous pouvons nous rassembler, nous pouvons nous aimer, nous pouvons avoir une communion fraternelle, mais la communion fraternelle n'est pas une fin en soi. On n'est pas là seulement pour passer un bon moment ensemble. Parce qu'au bout d'un temps, on va s'ennuyer les uns des autres. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui nous tient les uns aux autres? C'est le Seigneur et l'amour de sa parole. Que ces choses n'existent plus au milieu de nous, mes amis, chacun d'entre nous se dispersera à gauche et à droite. Car il n'y aura rien pour nous cimenter l'un à l'autre. Alors la première persévérance, c'est dans l'enseignement des apôtres. Alors, autrement dit, si nous voulons grandir spirituellement, il faut que nous ayons cet amour de la parole de Dieu. Il y en a qui persévèrent dans des expériences spirituelles. Nous vivons des temps particuliers aujourd'hui, où beaucoup courent après des expériences surnaturelles, pour le surnaturel, et s'éloignent de l'enseignement des apôtres et des Écritures. Alors, comment savoir? Parce que maintenant, dans les temps que nous vivons, mes amis, il faut savoir une chose. Des fausses doctrines commencent à s'infiltrer dans les églises. C'est un signe des temps de la fin. L'apôtre Paul le disait que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines de démons. Il y a des esprits séducteurs, donc il y aura des doctrines de démons. Est-ce que ça existe, ça? Mais ça existe. Donc des doctrines qui sont inspirées par les démons. Mais vous savez, tout ce qui est inspiré par les démons n'a pas toujours une apparence démoniaque. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Et un ange de lumière, c'est difficile à détecter. Vous savez, l'erreur est difficile, la séduction est difficile à détecter. Vous ne savez pas pourquoi? Parce que dans la séduction, il y a toujours beaucoup de vérité. Et parce qu'il y a beaucoup de vérité, on se dit, il y a beaucoup de vérité. Mais on ne voit pas qu'il peut y avoir un gramme ou deux de poison. Un gramme ou deux de poison suffisent pour vous détruire. N'est-ce pas vrai? Alors, le point important, c'est de voir non seulement la vérité qui est annoncée, mais l'erreur qui est cachée et qui est un poison et qui peut détruire la foi de beaucoup. Selon les Écritures, beaucoup s'égareront, perdront même la foi et s'engageront dans des voies tortueuses, dans des chemins où Dieu n'y est plus. Alors comment savoir que nous suivons l'enseignement des apôtres? Comment savoir si ce qu'on nous enseigne est vrai? Eh bien, il y a un test tout simple. Il faut dire si ce que vous entendez comme doctrine ou comme expérience, si ces deux choses-là ne sont pas conformes à l'enseignement des apôtres. Si les apôtres n'ont pas prêché et pratiqué ces choses, vous devez rejeter cela systématiquement. Amen.
Voilà comment nous pouvons nous en sortir. On doit persévérer dans l'enseignement des apôtres, pas dans l'enseignement de nouveaux apôtres, parce qu'il y a aujourd'hui de nouveaux apôtres. Il y en a qui n'ont pas froid aux yeux, comme on dit. Ils aiment bien s'appeler apôtres. Ils aiment bien même qu'on les bombarde comme prophètes. Nous avons un prophète au milieu de nous. Ça gonfle le cœur. Mais mes amis, ce ne sont pas les titres qui doivent nous impressionner. Combien de fois, quand quelque chose de nouveau se passe, et encore jusqu'au Venezuela, quand nous étions là-bas, concernant un certain mouvement qui se passe en Amérique et qui bientôt peut-être viendra un jour ici, au sujet de ces Promise Keepers. Donc il y a tout un mouvement d'hommes en Amérique qui commence à se passer maintenant et qui dépasse un peu même la vague de rire maintenant. Ça dépasse un peu ça, mais ça vient du même mouvement. Et c'est un mouvement qui rassemble des foules, des stades, plein d'hommes, que des hommes. Que des hommes. Et alors, quand nous étions dans la voiture au Venezuela, l'interprète et le pasteur vénézuélien parlaient un petit peu en espagnol, mais d'un seul coup, j'ai compris quelques mots qu'il parlait de ce nouveau mouvement, Promise Keepers. En anglais, ça veut dire ceux qui tiennent leurs promesses, les hommes qui tiennent leurs promesses. Donc c'est un nom très, très séducteur. Des hommes intègres, on veut soi-disant faire des hommes intègres personnellement, dans la famille, dans l'église et dans la société. Voilà comment on présente la chose. C'est formidable, vous êtes d'accord avec moi? Qui ne veut pas d'hommes intègres, être personnellement intègre dans la famille, dans l'église et dans la société et dans son travail? Alors j'ai vu qu'ils parlaient un peu de tout cela, mais ils avaient l'air d'être ignorants pas mal de choses. Mais je les ai arrêtés. J'ai dit, je ne peux pas partir comme ça et les laisser dans cette illusion-là. J'ai dit, en passant, Hermano Aldo. Hermano, vous savez maintenant ce que c'est frère. Il faut que je pratique le peu d'espagnol que j'ai. Il n'y en a pas beaucoup déjà. Gracias, muchas gracias. Je fais tout à l'envers. Merci beaucoup, c'était muchas gracias. Et puis, Dios te bendiga, Dieu te bénisse. Bon, enfin, le cours d'espagnol est fini là. Mais là, je voulais lui donner un autre cours à mon interprète. On était derrière la voiture. Je dis, Hermano Aldo, tu as parlé de quoi tu as parlé? Promise keepers, ceux qui tiennent leurs promesses, oui. J'ai vu qu'il est au courant puisqu'il est à Toronto, donc ils sont au courant, ça se passe en Amérique, ça commence à venir au Canada, donc ça se propage. Peut-être qu'un jour vous en entendrez parler, ça viendra, c'est comme la vague de rire, ça a commencé il y a 2 ans, mais regardez maintenant, on est complètement envahi. Vous en entendrez certainement parler de ce mouvement d'hommes, d'ailleurs qui vient du même mouvement que la vague de rire, de l'église John Wimber, des Vineyards, c'est le même mouvement. Donc, il y a la même source d'erreur qui est là. Bon, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne pensais pas vous dire là-dessus, je ne pensais pas vous parler là-dessus. Mais juste un point, pour finir ma pensée avec le Hermano Aldo. J'ai dit, Hermano, tu parles des Promise Keepers, donc de ces hommes, soi-disant, qui remplissent des stades. Et effectivement, ils remplissent des stades. C'est très impressionnant. J'ai dit, mais tu sais ce que c'est que mouvement? J'ai dit, fais bien attention dans ce mouvement-là. C'est un mouvement œcuménique qui rassemble, c'est vrai, beaucoup d'évangéliques, de charismatiques, mais beaucoup de catholiques et même des mormons. Oui, parce que c'est un mouvement très œcuménique. Ah, je ne savais pas ça! Eh bien, tu dois le savoir maintenant. Je ne savais pas. Voyez-vous? Et quand on ne sait pas, les pieds joints, on avance dedans. Parce qu'on vous présente toujours le bon. Mes amis, ce n'est pas sur ce qu'on vous dit que vous devez juger quelque chose, c'est ce qu'on vous cache. Amen. Parce qu'on vous dira toujours les bonnes choses, vous êtes d'accord avec moi? Ils ne sont pas bêtes, ces gens-là. Ils ne vont pas venir pour vous dire, attention, nous on a quelque chose de spécial, qui est tout à fait le contraire de ce que vous pensez. Vous croyez qu'ils vont venir comme ça? Ils ne sont pas bêtes. Ils vous disent tout ce que vous croyez déjà pour vous mettre en confiance. Et au moment où vous dites, mais ils sont formidables ces gens-là, ils prêchent comme nous. Mais c'est formidable! Voyez-vous, ils gagnent votre confiance. Et à partir du moment où ils ont gagné votre confiance, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à apporter leur venin, leur particularité. Et comme vous, vous êtes, ça y est, comme déjà endormi par leur belle parole, et vous dites, mais ça aussi, c'est sûrement vrai aussi, par leur belle petite parole. Vous dites, ah mais c'est beau, c'est bien. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à accepter des choses qui ne sont pas du tout bibliques. Et c'est comme cela que petit à petit, la séduction pénètre. Ce n'est pas sur ce qu'on vous dit, c'est sur ce qu'on vous cache. C'est sur ce qu'on ne vous dit pas qu'il faut faire attention. Ah, je ne savais pas. Je lui dis, maintenant tu le sais. Et je lui dis d'ailleurs, je vais t'envoyer des... Tu lis l'anglais, au pasteur là-bas et à toi, et je vais vous envoyer des articles très sérieux là-dessus. Et en rentrant, on doit le faire. Enfin, ceci était une parenthèse, mais aussi importante pour vous et pour nous. Parce que mes amis, combien aujourd'hui aussi, même en France, et pas seulement en Amérique ou autre, on est impressionné par la foule. Quand vous les voyez, on a des magazines, vous voyez des hommes, parmi 70 000 même, ils remplissent des stades, ils louent le Seigneur. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Mais quand vous grattez un petit peu, c'est autre chose. Les catholiques, ils prient comme vous, mais après, ils continuent d'aller à l'église pour prier Marie et les saints. Le mormon, il va prier, là-bas, je ne sais pas qui, son prophète, je ne sais pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle le prophète des noms? Smith, Joseph Smith. Voilà, Joseph Smith. Alors, regardez-moi ça. Alors, et pourtant, quand ils sont tous là, c'est Jésus. Mais en réalité, il y a autre chose. Mes amis, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. Mes frères et sœurs, faites bien attention. Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est pas sur ce que quelqu'un dit qu'il faut le juger. C'est sur ce qu'il ne dit pas, qu'il cache. C'est pourquoi il ne faut jamais s'emballer avec qui que ce soit. Jamais les yeux fermés et les pieds joints. Parce que vous entendez de bonnes choses. Non, mes amis. Très souvent, le diable agit ainsi. Pour vous conduire après sur une voie détournée. Et vous conduire dans la confusion et Babylone. Comment le savoir? Eh bien, tout le monde peut le savoir. Quand vous entendez quelque chose qui n'est pas conforme à ce que les apôtres ont prêché et pratiqué, vous devez le rejeter systématiquement. C'est clair et net. On persévère dans quoi? Dans quoi vous devez persévérer? Dans l'enseignement des apôtres. Pas des nouveaux apôtres, pas des nouveaux prophètes, parce qu'il y en a maintenant qui se prennent pour des nouveaux prophètes, des nouveaux apôtres, qui apportent de nouveaux messages, de nouvelles révélations. Un jour, un Américain nous a téléphoné à la maison. On l'a eu même à une de nos conventions. Il ne vient plus maintenant, parce qu'il sait que ça ne marche plus. Il me dit, Sam, quelle est la dernière révélation que le Seigneur vous a donnée? Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis, quelle révélation? Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a aucune révélation. La parole de Dieu est là. Je prêche la parole, un point, c'est tout. Il n'y a pas de nouvelle révélation. Mais voyez-vous, dans quel esprit se trouvent certains, et même certains serviteurs de Dieu? S'ils n'amènent pas quelque chose de nouveau, ils ont l'impression de ne pas être dans le vent. Il faut qu'ils soient dans le vent. Il faut que les gens voient qu'ils ont du spécial, que c'est, voyez-vous, le regard est attiré sur l'homme. Et Dieu est déshonoré et le Saint-Esprit est attristé. Première persévérance dans l'enseignement des apôtres, mes amis, pas dans n'importe quoi. Parce qu'il y en a un qui veut nous faire dévier, n'est-ce pas vrai? Il y en a un qui veut vous faire dévier, qui veut me faire dévier. Faites bien attention. On peut commencer par l'enseignement des apôtres et finir par l'enseignement de faux apôtres. Et vous ne pouvez pas mélanger les deux. L'enseignement est complet là. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit que si quelqu'un prêche un autre évangile que celui qu'on vous a annoncé, qu'il soit un athée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangile est complet. Son évangile, c'était Dieu qui l'a révélé, un point c'est tout, jusqu'à la fin. Donc le Saint-Esprit qui a révélé ça à Paul ne va pas maintenant dire à un nouvel apôtre, maintenant il y a de nouvelles révélations, de nouvelles choses. C'est quoi ça? Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Saint-Esprit ne fera jamais ça. Donc, si nous voulons grandir spirituellement, il nous faut marcher dans l'enseignement des apôtres. Amen. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Ces gens qui marchent dans toutes ces expériences comme cela, surnaturelles. En général, ces gens-là ne grandissent jamais. Ce sont des bébés qui courent toujours d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, pour essayer d'être, vous voyez, de vivre que du surnaturel. Et quand les gens ne tombent pas, ne crient pas, il n'y a rien qui se passe, ils disent qu'il n'y a rien qui se passe. C'est un christianisme sensuel qui commence à se pénétrer dans nos églises. Et les gens ne sont pas changés, loin de là. Ils courent après une expérience. Et quand cette expérience est finie, et ce sera encore autre chose. Pendant un temps maintenant, c'est la vague de rire, avec les cris d'animaux qui se passent dans les églises. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dans un certain temps, ça va se passer un petit peu, mais il va venir encore autre chose. Et encore autre chose. Combien nous devons veiller? Ce ne sont pas ces choses-là qui vont nous faire grandir spirituellement. Au contraire. Nous risquons de périr spirituellement. Le pain de vie qui nous nourrira, c'est la parole de Dieu. Amen. Non pas la parole d'un prophète, non pas la parole d'un nouvel apôtre, ce ne sont pas ces hommes-là qui vous nourriront. Car le Saint-Esprit n'approuvera jamais ces choses. Ce que le Saint-Esprit approuve, c'est la parole de Dieu. Et quand nous la prenons, nous en nourrissons, le Saint-Esprit approuve cela, confirme cela, et nous sommes nourris, fortifiés, et nous grandissons. Amen. Bon, allons plus loin. Deuxième persévérance, dans Luc chapitre 8, verset 15, Luc 8, 15, il y a une autre persévérance ici. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Dans un autre passage des évangiles, c'est aussi la retiennent et la comprennent, et portent du fruit avec persévérance. Voyez-vous, là, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres, et ici, il faut persévérer toujours dans cet enseignement-là. Si nous persévérons, nous porterons du fruit. Parce qu'il n'y a que ce quatrième terrain qui porte du fruit. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a que le quatrième terrain. Mais pour porter du fruit, il faut persévérer. C'est là qu'on est toujours trop pressé. Et c'est là justement que les uns et les autres cherchent des expériences rapides. On veut toujours tout de suite que Dieu agisse, que Dieu fasse ceci. Voilà, parce que dans ces milieux un peu exaltés, fanatiques, il se passe toujours tout de suite quelque chose. Et les gens pensent que ça y est. Non, mais Dieu n'agit pas comme ça. Souvent, quand Dieu fait une œuvre profonde, il prend du temps. Amen. Mais il n'a pas à revenir sur ce qu'il fait. Ça va en profondeur. Je ne veux pas dire par là que Dieu ne puisse pas faire des actes extraordinaires, instantanément. Parce que Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Mais quant à nous, pour notre maturité spirituelle, il prend le temps. Il faut comprendre cette parole, la retenir comme il est dit ici. Et persévérer dans cette obéissance, dans cette compréhension. Dans cette obéissance, une fois qu'on l'a compris, il faut obéir. Ce n'est pas le tout d'écouter, il faut encore mettre en pratique. Et c'est quand on marche dans la pratique et l'obéissance de ces vérités qu'on persévère, qu'on portera du fruit. Qu'aucun ne se décourage. Si tu veux porter du fruit dans ta vie spirituelle, persévère dans l'obéissance. Dans la compréhension de la parole, dans l'écoute de la parole, persévère et tu porteras du fruit. Amen. Persévère. Les choses, parfois Dieu agit instantanément dans nos vies, mais parfois c'est lent. Nous on voudrait que toujours tout se passe vite, mais c'est Dieu qui décide. Et là encore, il faut lui dire comme tu veux, Seigneur, et non comme je veux. Amen. Persévérance. Troisième persévérance. Romains 5, verset 3. Romains 5, 3. On peut lire verset 1 déjà. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Voyez-vous ici? Et lorsque nous avons persévéré dans l'épreuve, il y a la victoire dans l'épreuve. Et vous savez, je lisais là tout à l'heure, j'ai une petite annotation ici, le mot victoire dans l'épreuve, dans le texte grec, c'est un mot qui est utilisé pour un métal qui a passé par le feu, de sorte que toute impureté en a été ôtée. C'est un feu, c'est l'image d'un feu qui passe d'un fer qui est passé au feu et dont les scories ont été ôtées. Alors quand Dieu nous fait passer par le feu de l'épreuve, son but c'est de quoi? C'est de d'ôter les scories de notre vie pour que nous sortions de cette épreuve plus purs, plus forts et plus près de Dieu. Amen. Alors le but de l'épreuve, ce n'est pas de nous éloigner de Dieu. Le but de l'épreuve, c'est de nous rapprocher encore plus. Nous devons, et vous devez utiliser toute épreuve pour vous rapprocher du Seigneur. Vous devez utiliser ces épreuves pour purifier en vous ce qui déshonore le Seigneur. Parce que malheureusement, il n'y a que dans l'épreuve que nous comprenons certaines choses. Amen. L'épreuve, l'adversité est un bon professeur. C'est là que nous comprenons certaines choses que nous ne comprendrons pas autrement. Quand tout va bien, qu'est-ce qu'on comprend? Rien du tout. Mais quand tout va mal, on se pose des questions, n'est-ce pas? Et là, l'adversité est comme un moyen que Dieu utilise pour nous parler, pour nous sonder, et nous faire passer par le feu pour être purifiés de toute scorie. Et le but de l'épreuve, c'est que nous en sortions plus purs, plus forts et plus près de Dieu. Alléluia! Et quand nous avons compris cela, nous persévérons alors. Il y a la persévérance. Quand nous savons quel est le but que Dieu poursuit, sais-tu quel est le but de l'épreuve dans ta vie? Ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te rendre malheureux. Parce que nous, souvent, on pense ça. Oh, quelle est l'épreuve? On ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas pour que tu perdes du temps. Non, il y a un but. Pour te rendre plus pur, plus fort et plus près de Dieu. Si tu comprends cela, alors tu persévéreras. Mais si tu ne comprends pas cela, tu ne vas pas persévérer. Et tu vas dire, pourquoi je passe par telle épreuve? Avec nos éternels pourquoi, n'est-ce pas vrai? Pourquoi? Et on est là en train, comme les disciples d'Emmaüs, on est assis, on est debout, on n'est même pas assis. Enfin, on est pétrifié debout, tout triste. Pourquoi? Pourquoi Jésus, il n'est pas venu nous délivrer? Pourquoi? Pourquoi? On est là avec nous, pourquoi? On ne comprend pas le but de nos épreuves. Mes amis, si tu veux grandir spirituellement, tu dois comprendre le but des épreuves. Ce n'est pas de te détruire, ce n'est pas de te faire du mal, au contraire, c'est pour te purifier. Dieu te passe au feu. Ton cœur est comme ce métal qui doit passer au feu pour être purifié, pour être plus pur, plus fort et plus près du Seigneur. Alléluia. Lorsque tu as compris cela, mais tu persévères, c'est parce que nous ne comprenons pas que nous ne persévérons pas. Amen. Parce qu'il est dit ici bien plus. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Sachant, l'apôtre Paul leur dit, mais vous devez savoir cela. Si tu sais cela, que l'épreuve te purifiera, te fortifiera et te rapprochera de Dieu, alors tu persévéreras. Sachant, si tu ne le sais pas, tu tournes en rond. Tu te révoltes même contre Dieu. Et tu dis même, pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Il y a tant de pourquoi qui paralysent tant de chrétiens. L'adversité a un but. L'adversité a pour but de te rendre plus pur, plus fort et plus près de Dieu. Si tu as compris cela, alors tu persévéreras. Amen. Alléluia. Et dans cette persévérance, vous grandirez spirituellement. Il y a une maturité qui s'opère en nous, n'est-ce pas vrai? Quelque chose de profond. Vous le voyez quand quelqu'un est passé par le feu et en est sorti victorieusement, n'est-ce pas vrai? La personne n'est plus la même, son regard n'est plus le même. Ses paroles ne sont plus les mêmes. Le regard est passé par le feu. Les paroles sont passées par le feu. Les oreilles sont passées par le feu. Les mains sont passées par le feu. Quelque chose a été purifié. Quelque chose a été ôté. La personne change au plus profond d'elle-même. Elle est plus forte. Elle ne voit plus son épreuve comme une catastrophe, mais comme une bénédiction. Ou il a peut-être versé des larmes, mais comme une bénédiction. Certaine. Amen. La persévérance. Voilà pourquoi tu dois persévérer dans l'épreuve. Quatrième persévérance, Hébreux 12, 1. Et je vais terminer. On arrive à la fin. Hébreux 12, 1. Vous connaissez ce passage, hein, Hébreux 12. Vous l'avez trouvé avant moi, le passage ? Nous donc aussi, verset 1, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. La persévérance en regardant à Jésus. Et ici, il est dit, ayant les regards sur Jésus. J'aime bien, j'avais lu une fois dans la version Darby, quand il est dit, ayant les regards sur Jésus, il y a une petite annotation dans la version Darby qui dit ceci. Le mot ayant veut dire ceci, ayant les regards sur Jésus. Ça veut dire détournant les regards de toute autre chose pour les fixer uniquement sur Jésus. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Si nous devons persévérer dans le fait que nous devons regarder, nous détourner de toute autre chose, de tout ce qui n'est pas du Seigneur, de tout ce qui est regard encore humain, pensée humaine, nous devons nous détourner de tout cela pour fixer nos yeux uniquement sur le Seigneur. Amen. Persévérons en regardant au Seigneur, pas sur les hommes. Combien ont regardé sur l'homme et sont tombés? L'homme est tombé, ils sont tombés avec. Combien de chrétiens? Si tu t'appuies sur un homme, si ta doctrine dépend d'un homme, tu n'as pas contrôlé la doctrine de cette personne, même de ton pasteur, même d'un grand apôtre, si tu n'as pas contrôlé ce qu'on t'enseigne, malheur à toi. Malheur à toi! Tu dois tout vérifier, comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient tout ce qu'on leur enseignait, même ce que Paul enseignait. Paul, pourtant, pourrait dire, hein, il aurait pu être vexé, Paul. Pour qui vous me prenez? Vous pensez que je vous annonce des mauvaises choses? Non. Même Paul devait être contrôlé. Tout le monde doit être contrôlé. Je dois être contrôlé. Et je n'ai pas peur d'être contrôlé. Au contraire, quand quelqu'un me contrôle et qui vient me dire, Sam, là, ici, je ne comprends pas très bien dans la parole. Ah, mais mon cœur serait... Je ne suis pas vexé, pas du tout. Au contraire, je me dis, oula, voilà enfin un chrétien qui n'accepte pas n'importe quoi. Et ensemble, nous allons voir. Je peux me tromper. Si je me suis trompé, je dis, là, oui, d'accord, là, ce n'était pas tout à fait ça. Pardon. Mais si c'est ça, je dirais, non, mon ami, c'est cette pensée que tu as, ça ne vient pas du Seigneur. C'est, tu l'as lu quelque part. Tu l'as lu dans tel bouquin, je l'ai déjà lu avant toi. Alors ne viens pas me mettre quelque chose qui n'est pas dans la parole, qui est dans ta tête, que tu as lu ailleurs, mais que tu veux mettre ici. Non, pas d'accord. Amen. Alors les regards sur Jésus, nous détournant de toute autre chose. Mes amis, si tu veux vraiment grandir, mûrir spirituellement, ne compte sur personne que sur Jésus seul. Regarde à lui, tu ne seras jamais déçu. Si tu regardes à l'homme, tu seras déçu tôt ou tard. Si aujourd'hui ça va bien, mais un jour, tu risques bien d'être déçu si tu mets ta confiance. D'ailleurs, Dieu permettra que tu sois déçu pour que tes yeux ne soient pas fixés sur un homme. Dieu le permettra. Et tu vas dire, ah bon, ah, j'aurais cru que celui-là ou celle-là soit comme... Jamais. Ah, Dieu l'a permis. Parce que tu mets trop ta confiance dans cette personne. Et Dieu t'aime trop pour que tu marches aveuglément derrière une personne, même la plus grande soit-elle. On peut être aidé mutuellement, mais notre seul fondement doit être Jésus et sa parole. Amen. Alors terminons maintenant une cinquième persévérance, 1 Corinthiens 15.
1 Corinthiens 15. Là aussi, Paul dit quelque chose justement de très sérieux. Les versets premiers. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Regardez-moi ce que Paul dit. La persévérance dans l'évangile, dans la saine doctrine, dans l'évangile. Nous ne pouvons pas croire n'importe quoi. Et Paul le dit bien, si nous ne persévérons pas dans cet évangile-là, nous risquons de croire en vain. N'est-ce pas tragique? Croire toute sa vie en vain? Penser qu'on est sur le bon chemin alors qu'on est sur un mauvais chemin. Nous devons, et dans lequel vous avez persévéré. Il y en a qui sont lassés du simple évangile de Jésus. Voilà pourquoi ils se tournent vers des choses affreuses dans nos milieux aujourd'hui. Ils se sont lassés de la simplicité de l'évangile. C'est un grand danger, un grand danger. Ne nous lassons jamais, mes amis, de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! C'est la plus belle, c'est la plus grande, la plus merveilleuse des histoires. Il n'y en aura pas d'autre. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est le seul chemin pour le salut et la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Personne ne peut dépasser les évangiles. Personne ne peut dépasser. Celui qui le fait, il le fait pour sa propre perte éternelle, dans lequel vous avez persévéré, sinon vous avez cru en vain. On peut croire en vain. On peut bien commencer et mal finir, n'est-ce pas vrai? Alors veillons, mes amis, persévérons dans cet évangile glorieux que Dieu nous a donné par son Fils et par son serviteur, l'apôtre Paul. Continuons, persévérons, et Dieu sera avec nous. Son esprit nous consolera, son esprit nous fortifiera, son esprit nous réjouira et son esprit nous libérera. Alléluia! Que son nom soit béni. Pas de maturité spirituelle sans persévérance. Si tu as mis la main à la charrue, ne regarde plus en arrière. Mets la main à la charrue, avance droit devant toi. Pour que le sillon soit droit, on ne regarde pas ici. Le laboureur, il regarde loin devant. Regarde loin la parole de Dieu, le Seigneur. Sois obéissant et tu avanceras droit. Et Dieu sera glorifié dans ta vie. Tu n'auras pas cru en vain, au contraire. Ta vie sera une vie qui sera épanouie. Tu porteras des fruits et d'autres se nourriront à tes fruits. Alléluia. Et tu seras content, tu seras récompensé. Le Seigneur sera ta récompense. Tu n'auras pas cru en vain, loin de là. Tu auras été un instrument de bénédiction pour beaucoup, pour quelques-uns, pour plusieurs, pour d'autres. Mais tu auras été une bénédiction. Persévérons dans l'évangile, dans la parole, dans l'adversité. Persévérons, que rien ne nous arrête. Et nous porterons du fruit, et un fruit qui demeure. Au Seigneur soit toute la gloire. Amen.